midi en temps universel, 13h ici à Paris.
RFI Midi. Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, une demi-heure d'informations à suivre sur RFI avec d'abord à la une du journal. Le président français à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris où nous serons en direct dans un instant. Emmanuel Macron attendu au tournant pour calmer la colère et rassurer notamment sur la mobilisation de la France contre le traité de libre-échange avec le Mercosur. Dans l'actualité également, le 7e échange d'otages israéliens. Le Hamas en a pour l'instant relâché 5 ce matin contre 602 prisonniers palestiniens. Le limogeage aux États-Unis du chef d'état-major de l'armée américaine. Et puis la Russie, suspectée d'être à l'origine d'une vague de désinformation pendant la campagne électorale en Allemagne à la veille des législatives.
RFI Midi.
À suivre aussi le journal des sports. Et puis on va revenir sur un scandale mondial. Des milliers d'enfants probablement volés à leurs parents biologiques pour être adoptés par d'autres familles étrangères depuis environ les années 60. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs personnes venues des États-Unis vont justement retrouver leurs parents biologiques au Chili. Nous serons avec Johanna Lambollet de l'association Réseau des Adoptés à l'International en France. Elle a elle-même été enlevée à sa mère lorsqu'elle était enfant pour être adoptée par une famille française. On entendra son témoignage après le journal. L'ambiance est un peu plus apaisée que l'an dernier, mais le président français doit tout de même répondre à la colère. Emmanuel Macron, à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris depuis ce matin, il a commencé sa journée par des rendez-vous à huis clos avec les organisations professionnelles. Et depuis, il déambule dans les allées du salon. Valérie Gasse, vous êtes sur place pour RFI. Alors comment se déroule pour le moment cette visite d'Emmanuel Macron ?
Eh bien, Clotilde, de rien à voir avec l'ambiance de guerre de tranchées de l'année dernière, quand les agriculteurs en colère avaient déboulé dans le salon, obligeant Emmanuel Macron à se retrancher dans les étages et à changer son programme. Aujourd'hui, le chef de l'État mène sa visite tranquillement. Il est vrai avec un dispositif de sécurité assez impressionnant qui maintient la foule des visiteurs à distance. Et le président est donc plus positif.
J'ai connu des salons où c'était la joie, j'ai connu des salons très durs, j'ai connu... Ça, c'est pas grave, si je puis dire. Moi, j'ai à cœur que les salons soient beaux parce que c'est une fête.
Mais au détour des stands, Emmanuel Macron est toujours confronté à l'expression du désespoir de certains agriculteurs.
On a abandonné le monde agricole pendant trop longtemps. Moi, mon histoire, c'est la même que d'autres. J'ai retrouvé mon père avec une balle à la tête.
Je sais.
Et ça, je veux plus que ça se produise.
La loi d'orientation agricole vient d'être votée, mais le secteur reste en crise et les contraintes environnementales sont mal vécues. Une mesure fait débat, la dépénalisation des atteintes à l'environnement quand elles ne sont pas volontaires, critiquée par les écologistes. Le chef de l'État l'assume.
Mais je pense qu'il faut entendre le message aussi de beaucoup d'agriculteurs qui ne pouvaient plus accepter d'être pénalisés, c'est-à-dire traités comme des délinquants.
Comment réussir la transition écologique lorsqu'on promet ensuite de dépénaliser les atteintes à l'environnement lorsqu'elles sont pas faites exprès?
Parce que, il faut accompagner les gens avant de taper. Et ensuite, quand on sanctionne, on peut le faire dans le civil et pas dans le pénal.
Emmanuel Macron est là aujourd'hui pour tenter d'apaiser.
Valérie Gasse en direct du Salon de l'agriculture à Paris avec Julien Boileau et Diego Tenorio pour les moyens techniques. Le Salon de l'agriculture que vous pouvez aussi vivre en images sur le site internet et l'application de RFI. C'est la même mise en scène à chaque fois, une exhibition des otages entourés de combattants armés et encagoulés en treillis militaires. Le Hamas a relâché 5 otages israéliens ce matin, deux premiers à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, puis 3 autres à Nouserat dans le centre de l'enclave. Tous ont ensuite été pris en charge par la Croix-Rouge avant d'être remis à l'armée israélienne. Un 6e otage doit encore être relâché dans la journée. En échange, 602 détenus palestiniens doivent être libérés par Israël. Pierre-Olivier, vous êtes devant le centre culturel de Ramallah en Cisjordanie occupée, où ces prisonniers doivent arriver et où des centaines de familles attendent déjà ces retrouvailles.
On se trouve au milieu de ces familles avec des enfants qui courent partout, des hommes qui boivent le thé, des femmes qui discutent. En fait, on a un peu l'impression d'être à une grande fête de famille, les sourires sur les visages, du café et des dattes sur les tables. L'ambiance est celle des grands jours et il faut dire que c'est la première fois qu'autant de prisonniers vont être libérés en même temps. 602 exactement, vous imaginez le nombre de personnes ici qui les attendent en famille. Certaines sont même venues alors que les prisonniers qu'ils attendent ne seront pas relâchés ici à Ramallah, mais directement expulsés vers l'Égypte car jugés trop dangereux par Israël. Mais qu'importe, leurs proches m'ont dit qu'ils avaient envie de partager ce moment de joie avec le peuple palestinien. Alors pour l'instant, c'est l'attente. On ne sait pas exactement dans combien de temps les prisonniers seront libérés. Ils arriveront en tout cas par autocar depuis la prison d'Ofer, qui à vol d'oiseau est à quelques kilomètres de là où je me trouve. Et Et puis ce sera le moment tant attendu des retrouvailles. Certaines mères m'ont confié qu'elles n'avaient pas pu serrer leur fils dans leurs bras depuis 10 ans lors de leur dernière visite autorisée en prison. Alors vous l'imaginez, même si le ciel est gris, le froid glacial ce samedi, eh bien l'ambiance à Ramallah est tout de même assez festive.
La Pierre-Olivier depuis Ramallah pour RFI, ce 7e échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens qui se déroule alors que la famille Bibas a confirmé la mort de la mère Shiri enlevée par le Hamas le 7 octobre 2023 avec ses 2 enfants. Leurs 3 corps ont donc bien été rendus à la famille Bibas qui indique n'avoir aucun détail officiel de la part des autorités israéliennes sur les circonstances de leur mort. C'est une initiative qualifiée de purge par la presse américaine. Le président Donald Trump a démis de ses fonctions dans la nuit dans un message posté sur son réseau social. Son plus haut gradé, le chef d'état-major de l'armée américaine, Charles Brown. Son limogeage, ainsi que celui de plusieurs autres hauts responsables des forces armées, s'inscrit dans une série de mouvements initiés par la nouvelle administration qui entend également réduire d'au moins 5%, Yelena Tomic, les effectifs civils au Pentagone.
Et oui, Clotilde, qualifié par le président de dirigeant hors pair et remercié pour ses plus de 40 ans de service, le général Charles Brown était le premier afro-américain à accéder à la tête de l'armée de l'air. Donald Trump n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduit, fait inattendu, à le remplacer après 1 an et demi de service par une personnalité peu connue, Dan Kane, l'un des directeurs aux affaires militaires de la CIA. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait critiqué le général Brown pour ses positions woke en faveur des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'armée. 5 autres responsables des forces armées, dont l'amiral Lisa Franchetti, première femme à diriger la marine américaine, viennent rejoindre la liste des licenciés de l'ère Trump. Ces décisions s'inscrivent dans les promesses de Donald Trump de faire le grand ménage autour de lui, de réduire le poids de l'État fédéral et de tailler dans les dépenses au moins 5% des effectifs civils du Pentagone, soit environ 5400 salariés en période d'essai, seront congédiés dès la semaine prochaine.
Les précisions de Yelena Tomic. Les États-Unis qui propose par ailleurs un projet de résolution sur la guerre en Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies. Le texte demande une fin rapide du conflit et appelle à une paix durable entre Kiev et Moscou, mais ne fait pas mention du respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Formule laconique donc par rapport au précédent texte proposé à l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunira dans quelques heures. Pendant ce temps, le conseiller de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk, lui continue d'utiliser sa plateforme X pour soutenir l'AFD, le parti d'extrême droite, à la veille des législatives en Allemagne. Sur les réseaux sociaux, une vague de désinformation déferle d'ailleurs depuis plusieurs semaines à l'approche du scrutin pour nourrir un climat de défiance dans l'opinion. Et les soupçons se dirigent en particulier vers la Russie. Chine Labbé est rédactrice en chef Europe de NewsGuard, une organisation américaine de lutte contre la désinformation.
On a repéré beaucoup de fausses informations autour du scrutin, autour de ces candidats, mais on a aussi repéré une opération de désinformation provenant de la Russie et d'un acteur que nous connaissons bien qui s'appelle John Mark Dugan, qui est un citoyen américain, ancien shérif adjoint de Floride, réfugié en Russie, devenu propagandiste du Kremlin et qui a créé un réseau de 102 sites qui ressemblent à des sites d'information traditionnels allemands, dont certains d'ailleurs portent les noms de médias qui ont existé mais disparu, et qui utilisent l'IA générative pour générer des contenus, pas que des contenus faux, beaucoup de contenus polémiques, clivants, mais aussi pousser des faux récits qui peuvent s'appuyer sur des deepfakes ou sur même des vidéos mettant en scène de faux témoignages d'acteurs qui auraient été payés. Et on a déjà recensé 9 récits faux relayé par cet ensemble de sites qui vise surtout le parti écologiste, donc avec, semble-t-il, un objectif politique assez clair. Beaucoup de contenus sont très positifs sur l'AFD et pro-Russie et anti-Ukraine. Il y a un agenda politique qui est poussé.
Des propos recueillis par Sophie Malibaud. Pendant ce temps à Berlin, c'est la fin ce soir du 75e Festival international du film, L'Ours d'Or, qui sera donc remis dans quelques heures par le jury du cinéaste américain Todd Haynes. Et puis le pape François ne dirigera pas demain la prière de l'Angélus. Il entame sa 2e semaine d'hospitalisation pour une pneumonie des 2 poumons. Le Vatican indique seulement ce matin que le pape François s'est bien reposé. L'un de ses médecins affirme toutefois qu'il n'est pas hors de danger. On passe au sport. Bonjour Florence Valmet. Alors, pas mal de football aujourd'hui, hein, avec d'abord en Europe la 26e journée du championnat d'Angleterre.
Arsenal a qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec pour adversaire le PSV Eindhoven, accueille West Ham en première ligue aujourd'hui. Actuel dauphin de Liverpool à 8 longueurs, les Gunners ont ici l'occasion de revenir dans le sillage des Reds à 5 points, ce qui leur permettrait de mettre la pression avant d'affronter Manchester City demain. Mais pour l'instant, l'entraîneur Mikel Arteta veut surtout assurer l'essentiel car il sait que chaque point va compter dans la course au titre.
Nous devons faire le travail, ce sera un match difficile contre West Ham. Si nous gagnons, évidemment que nous nous pencherons sur le match de Liverpool contre City dimanche. Il reste encore 13 rencontres à disputer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à jouer. Vous constaterez à quel point il est difficile pour tout le monde de gagner des matchs de football. Il faut vraiment que nous soyons au rendez-vous.
Arsenal, West Ham, coup d'envoi 15h TU.
En France, la 23e journée de Ligue 1 qui se poursuit avec notamment un duel entre concurrents directs.
Après son élimination lors des barrages de la Ligue des Champions, l'AS Monaco va maintenant s'appliquer à rester dans le haut de tableau de la Ligue 1. Les Monégasques 3e se déplacent sur la pelouse du LOSC 4e. Le championnat a toujours été la compétition prioritaire, comme l'indique le vice-capitaine monégasque Thilo Kehrer.
C'est important de pas rester plus de trop de temps là-dessus sur le match de Benfica, sur ce qui s'est passé les dernières semaines ou quoi que ce soit. Il faut rester concentré sur la tâche qui est devant nous. Un grand défi en Ligue 1, déjà jouer à l'extérieur à Lille avec l'ambiance, avec la qualité de l'équipe qu'ils ont. L'objectif numéro un qu'on a mis au début de la saison, de finir sur le podium en Ligue 1. Bien sûr, les matchs en Coupe de France, en Ligue des Champions, c'est des extras. Notre base, c'est la Ligue 1, c'est ce qu'on a dit dès début. On a toute notre énergie et tout notre focus là-dessus.
Et LOSC AS Monaco, coup d'envoi 16h TU. Marseille, dauphin du PSG, se déplace à Auxerre. Match à 20h05 TU.
Et puis toujours du football avec cette fois-ci l'équipe de France féminine, hein, qui s'est imposée face à la Norvège hier en phase de poule de la Ligue des Nations.
Une petite victoire, hein, un but à zéro signé Marie-Antoinette Katoto en fin de match. Grâce à ce succès, les Bleus sont en tête de leur groupe avant d'affronter l'Islande mardi prochain au Mans.
Allez, on termine avec un peu de basket et cette victoire également pour l'équipe de France masculine qui se qualifie pour le prochain Euro.
Et repartir de Zadar en Croatie avec un succès était important pour les Bleus afin d'éviter un dernier match qualificatif sous tension dans quelques jours. Et c'est donc ce qu'ils ont fait. Les joueurs de Frédéric Fautoux se sont imposés 83-80 face aux Croates et valident leur ticket pour l'Euro de cet été. Lundi donc, dernier match sans enjeu donc face à la Bosnie-Herzégovine, rencontre qui a lieu à Orléans.
Florence Valmet pour le Journal des Sports, merci. Des enfants volés à leurs parents biologiques à partir des années 60 environ pour être adoptés par des familles étrangères. Ils sont probablement des milliers à travers le monde, originaires par exemple du Sri Lanka, de Corée du Sud, du Guatemala ou encore du Chili. Un scandale mondial qui prend de l'ampleur alors que de plus en plus de victimes découvrent leur histoire et partent à la recherche de leurs parents biologiques. Bonjour Johanna Lambollet.
Bonjour.
Vous êtes co-administratrice de l'association Réseau des Adoptés à l'international en France, responsable de la cellule Recherche des Origines pour les personnes adoptées du Chili. Alors aujourd'hui, plusieurs personnes arrivent justement des États-Unis à Santiago du Chili où elles vont retrouver pour la première fois leur famille d'origine. Vous aussi, vous avez été volée à votre mère chilienne lorsque vous aviez 5 ans et demi pour être adoptée par une famille française. Vous avez depuis retrouvé votre mère, quel sentiment est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Alors, c'est un sentiment qui est très mélangé parce que il y a l'excitation, l'émotion de retourner dans le pays qui nous a vu naître. Il y a toute la reconnexion culturelle à faire, hein, mais c'est vrai que lorsque l'on pose les premiers pas dans l'aéroport de Santiago, les premières pensées sont je rentre à la maison, je ressemble aux personnes qui je croise dans l'aéroport, cette langue je la connais, je l'ai connue, même si je ne l'ai pas parlé ou je ne la parle plus. Et en même temps, il y a une peur, il y a tout plein de questionnements également, parce que l'on ne sait pas forcément si on va arriver à reconnecter toute son histoire, à comprendre remettre les pièces du puzzle en place. C'est une bombe qui explose en nous, tant de joie mais aussi de tristesse et toute cette attente en fait qui trouve enfin une ouverture vers une vie plus posée souvent.
Alors, comme vous, Johanna Lambollet, et comme ces personnes aujourd'hui qui viennent des États-Unis jusqu'au Chili, eh bien, de plus en plus de personnes qui ont été arrachées à leur famille biologique prennent aujourd'hui la parole et essaient un petit peu de retrouver leur histoire. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a été déclencheur?
Alors, maintenant, parce que nous sommes la génération qui est devenue adulte. Et nous prenons conscience qu'il nous manque des choses pour être bien ancrés dans nos vies actuelles, parce que souvent, ou on devient parent, ou on est à des âges de questionnement, la quarantaine étant pour beaucoup de personnes des moments aussi de changement de vie, de repositionnement professionnel, personnel. Ce sont aussi les périodes où nos parents adoptifs peuvent venir à disparaître et peut-être que inconsciemment ou consciemment, on s'octroie finalement le droit de se consacrer à ses recherches.
Alors, dans votre association, le réseau des adoptés à l'international en France, combien de personnes est-ce que vous accompagnez aujourd'hui, Johanna Lambollet? Est-ce que vous constatez aussi des similitudes entre vos différentes histoires?
Alors aujourd'hui, sur l'association RAIF, nous dénombrons beaucoup de personnes qui arrivent environ, alors pour notre association, nous avons une trentaine de pays d'origine, qui nous contactent très régulièrement pour les aider à comprendre les méandres administratifs de leurs adoptions et les aider à retrouver leur famille ou les mettre en relation avec des associations spécialisées par pays. L'association est en train de prendre un grand tournant au niveau de nos adhérents qui sont de plus en plus nombreux, surtout depuis la diffusion du reportage Arte en novembre dernier.
C'était quoi l'objectif de ce système? Pourquoi des pays ont fait ça, selon vous, voler des enfants de familles pour les faire adopter à d'autres?
On était sur un système d'offres et de demandes, purement. On a créé des faux orphelins pour répondre à une demande croissante de parents ayant besoin de créer leur famille. Et ces pays dont nous sommes issus, ont pu, par des fautes ou des manquements législatifs, envoyer ces enfants à l'international et se débarrasser quelque part d'enfants pouvant être problématiques. Dans le cas du Chili, on était sous régime de dictature Pinochet. Et dans le cadre historique, on ne voulait pas d'enfants qui seraient anti-gouvernement Pinochet. Nous sommes pour la plupart issus de familles qui étaient de la région du Biobío, des Mapuches, ou en tous les cas de familles qui étaient dites pauvres. Et ces enfants que nous représentions pouvaient être des potentiels ou des futurs opposants au gouvernement. Donc il fallait se débarrasser de nous.
Un mot très rapide pour terminer, Johanna Lambollet, sur ce que vous attendez désormais de l'État chilien et peut-être aussi de l'État français.
Alors, actuellement, nous travaillons avec l'association sur les deux États. Du point de vue de l'État chilien, nous avons quand même un très bon rapport parce que l'État chilien veut rectifier ses manquements historiques et travaille d'arrache-pied par le dépôt de plainte à la PDI, par les réunions que nous faisons avec les différentes instances pour nous réhabiliter dans nos pays. Donc l'État chilien aujourd'hui, il lui manque juste d'accélérer un petit peu, on va dire, le process. Hein. Mmh. Et pour les deux pays, à minima, des excuses publiques, ça c'est certain.
Des excuses.
Pour la France,
merci,
il y a beaucoup de choses à faire.
Johanna Lambollet, on retient effectivement moins les excuses pour l'État français. Je rappelle que vous êtes co-administratrice de l'association Réseau des adoptés à l'international en France. presque 3 ans jour pour jour de la guerre contre la Russie. Ces réfugiés ukrainiens veulent désormais rentrer chez eux, quitte à servir dans l'armée. Ils sont près de 700 vivant en Europe à s'être inscrits pour rejoindre la Légion ukrainienne, une nouvelle formation de l'armée censée être bientôt déployée contre les troupes russes sur le front. Ils viennent notamment de Pologne, d'Allemagne ou même d'Irlande. Reportage justement à Dublin de la correspondante de RFI, Clémence Pénard.
Parmi eux, Oleg, étudiant en génie mécanique à la prestigieuse université Trinity. Le jeune homme n'a que 22 ans, il est né dans l'ouest de l'Ukraine, mais il a vécu toute sa vie en Irlande et pourtant, il compte bien s'engager en tant que volontaire.
Tout le monde me supplie de ne pas partir, et moi aussi je m'inquiète pour ma sécurité. Mais je veux contribuer à la défense de l'Ukraine. Si cela implique de rejoindre l'infanterie, je le ferai. Je crois que je serais plus utile si je pouvais aider du côté de la guerre technologique, dans l'utilisation de drones par exemple. Combattre dans l'infanterie, c'est terrifiant.
Tatouage du trident symbolique de l'indépendance ukrainienne sur l'avant-bras, Oleg le reconnaît, il n'a aucune expérience militaire. Pour rejoindre la Légion ukrainienne, la première question posée à tous les volontaires lors de l'inscription en ligne concerne leur expérience dans l'armée ou bien la police. Si la réponse est non, le processus est interrompu. Mais voilà, les candidats peuvent se reconnecter immédiatement et changer tout simplement leur réponse en oui. Mais peu importe, d'après Oleg, l'Ukraine a plus que jamais besoin de tout le soutien possible.
J'aimerais vraiment que nous puissions remporter cette guerre sans ma participation, mais je crois que si nous devions perdre cette guerre et notre État, et que je n'ai rien fait pour contribuer à l'effort, je ne sais pas si je pourrais me le pardonner. Je ne veux vraiment pas mourir, mais c'est compliqué. Je ressens cet impératif moral d'aider les miens et de faire tout ce que je peux pour que mon père rentre à la maison sain et sauf et pour que mes amis et proches s'en sortent.
Son père est parti se battre contre les troupes russes en 2022. C'est l'une des raisons qui pousse Oleg à vouloir s'engager à son tour. Selon Larisa Gerasko, ambassadrice d'Ukraine en Irlande, impossible de savoir le nombre exact d'hommes ukrainiens en Irlande qui se sont inscrits à la Légion. Mais l'ambassadrice nous le confirme, ceux qui ont fui la guerre récemment ne sont pas les seuls à s'engager.
Certains Ukrainiens qui vivaient ici depuis 20 ans, 15 ans, avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, ont rejoint les forces militaires et se battent aujourd'hui. Parce qu'ils sont ukrainiens et que notre pays, notre patrie est attaquée. Nous serions heureux de vivre à nouveau en paix, mais nous n'abandonnerons jamais, nous ne capitulerons pas.
Ces derniers mois, Donald Trump a martelé pouvoir imposer une paix en Ukraine en 24 heures, mais son plan consisterait à céder la Crimée et la région du Donbass à la Russie en échange d'un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Le reportage à réécouter sur l'application Pure Radio et le site internet de RFI. C'est une information qui est un peu passée sous les radars de l'actualité, mais qui va pourtant bouleverser le transport à hydrogène. Pour la première fois de son histoire, l'hydrogène européen à énergie nucléaire sera considéré comme un hydrogène vert moins polluant pour la planète. C'est le français Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, qui l'a annoncé et qui sera officialisé cette annonce mercredi prochain à Bruxelles. Chronique transport signée Marina Miel.
En anglais, cela s'appelle le Green Deal, le pacte vert. Promise en début d'année, la révision de ce pacte vert, donc une série d'engagements pour la protection de la planète, arrive en pleine période de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour le transport à hydrogène. Voyons d'abord les bonnes nouvelles. Avec Valérie Bouillon-Delporte, elle est directrice du partenariat hydrogène à la Commission européenne.
La France n'est pas le seul pays à avoir des centrales nucléaires, comme la Suède, la Finlande, l'Espagne, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie. L'hydrogène peut être transporté à travers l'infrastructure, les fameux pipelines de gaz qui existent déjà.
Pour les plus mauvaises nouvelles, voyons du côté de l'aviation. Une première annonce du groupe européen Airbus qui repousse la commercialisation de son avion 100% hydrogène. Elle était initialement prévue pour 2035. Suivi de près par l'avis de la puissante Association internationale des compagnies aériennes. Pour le moment, cette alliance mise plutôt sur les carburants non fossiles, électrocarburants, biocarburants à base de produits agricoles ou combustibles verts de synthèse. Mais pour le spécialiste Mika Bujon-Mered, cette préférence est momentanée. L'aviation garde l'hydrogène dans son agenda.
Il n'y a pas de renoncement. Et l'annonce de Airbus, elle est assez particulière. C'est que d'un point de vue technologique, dans son avion hydrogène qu'ils avaient annoncé,
annoncé pour 2035. Ce qui se pose comme sujet pour Airbus, c'est à quoi ça sert à partir du moment où, en fait, le marché, par ailleurs, n'est pas prêt. Toutes les infrastructures qui permettraient effectivement à l'avion hydrogène d'être commercialement utilisé, c'est-à-dire la recharge. Cette recharge, est-ce qu'elle est directement sur le tarmac? Est-ce qu'elle se situe dans un autre espace de l'aéroport? Est-ce qu'elle est située plutôt hors aéroport? Il y a toute la dimension hydrogène également liée au matériel au sol et notamment au matériel roulant. Il y a tous ces éléments-là en fait qu'il faut arriver à mettre en œuvre et à une échelle suffisamment importante, c'est-à-dire qu'il y en est dans au moins 80 à 120 aéroports dans le monde d'envergure pour qu'effectivement ça fonctionne, au moins pour le développement d'une échelle de l'avion hydrogène à moyen courrier. Donc ça demande à l'alignement des planètes extrêmes.
L'étape suivante, en tout cas pour la France et sa filière hydrogène, consistera à convaincre la Banque européenne à hydrogène d'aider à financer ce nouveau couple nucléaire-hydrogène.
La chronique à retrouver sur RFI.fr. Après des années de travaux, le Grand Palais à Paris a choisi d'inviter Chiharu Shiota pour sa réouverture. L'artiste japonaise inaugure donc le bâtiment rénové avec son exposition « The Soul Trembles, les âmes tremblent ». Visite avec José Marigno.
L'art de Chiharu Shiota tient à un fil. Avec plus de 40 kilomètres de cordes de laine monochrome noire ou rouge, l'artiste japonaise a tissé cette installation monumentale suspendue sous la verrière du Grand Palais. Quel sens donne-t-elle au fil rouge omniprésent dans son œuvre? Mami Kataoka est la commissaire de l'événement parisien.
Les installations de Chiharu Shiota tissent des nuages de milliers de fils. Elles sont comme des dessins en trois dimensions. C'est une métaphore sur les liens invisibles qui créent l'existence humaine. C'est aussi la connexion avec le destin, mais surtout à la couleur rouge, symbole du sang, de la nationalité, des genres, de la religion, de la famille et de bien d'autres choses.
Le rouge est aussi la couleur du drapeau japonais. Mais que reste-t-il de japonais chez cet artiste international que depuis les années 90 a participé à plus de 300 expositions à travers le monde?
Difficile de la qualifier d'artiste japonaise parce qu'elle vit en Europe depuis 30 ans et qu'elle réside actuellement à Berlin après avoir étudié en 1996 avec la reine de la performance, la Serbe Marina Abramović, puis la sculptrice polonaise d'avant-garde Magdalena Abakanović.
Ces deux artistes engagés l'ont libérée de son complexe d'être une femme artiste dans une société dominée par les hommes. Et aujourd'hui, à 53 ans, Chiharu Shiota se situe entre performance et sculpture. Au Grand Palais, dans ses nuages de fils entrelacés, se trouvent prisonniers des clés, des lettres, un piano, des chaises d'enfants et des robes de fées. Des objets qui racontent une histoire éternelle, celle de la mémoire, du vécu, des échecs, de la maladie, de la vulnérabilité, de la nostalgie, mais aussi du désir. Mami Kataoka.
La sensibilité de Chiharu Shiota se traduit par une œuvre universelle, de la naissance à la mort, du rouge comme le cordon ombilical qui marque la naissance, au noir, de l'au-delà et de l'espace. Ça demande beaucoup d'attention à chaque détail parce que le but de cette exposition, c'est de créer un espace d'intimité pour plonger le visiteur dans les profondeurs de l'âme.
Le savoir-faire de Chiharu Shiota, dans sa recherche de l'invisible et du non-dit, fait un pas de plus vers la compréhension de ce qui constitue l'essence même de l'être humain, la quête de sens.
Voilà, José Marigno pour The Soul Trembles, donc l'exposition de Chiharu Shiota à découvrir jusqu'au 19 mars au Grand Palais à Paris. Voilà pour cette demi-heure d'information internationale. Merci à Arthur Bon à la réalisation aujourd'hui. Restez sur RFI dans un instant, c'est le retour de l'actualité africaine.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat de plus en plus médiatisé dans le monde. Malgré une réputation sulfureuse, ce spectacle venu des États-Unis est entré de plein pied dans le sport business. Quelles sont ses recettes et qui en bénéficie? On en parle avec nos invités.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Décolonial, nous allons parler de ce mot et des idées qu'il véhicule avec notre invité, le sociologue Pierre Gossens. Tout commence avec une date.
1492 et l'arrivée de Cristobal Colomb, ce serait la date départ de la construction du capitalisme et de la monnaie.